N'ayez pas peur, la deuxième partie aujourd'hui. On a vu que dimanche passé, Esaïe était en train de vivre des moments très troubles quand il a annoncé peut-être pour la première fois la naissance de Jésus. Si on regarde la carte, son pays il était divisé en deux, avec deux rois, deux capitales, une grande partie du peuple et des leaders religieux avaient arrêté de croire en Dieu. Le royaume du Nord était sur le point d'être envahi par la Syrie. Et puis au milieu de tout ce chaos-là, Dieu il dit, n'ayez pas peur de ce qui leur fait peur et n'ayez pas peur d'eux, il dit à Esaïe. Mais ce n'est pas possible. Comment on peut ne pas avoir peur quand tout notre contexte familier s'effondre? Il y a des... Dans son contexte, il y avait des problèmes dans les décisions des personnes dans la politique. Il y avait des difficultés vécues par des connaissances d'Esaïe. Il y avait l'abandon de Dieu. C'est trop d'insécurité pour une personne. Et je pense que Dieu aime nous mettre au défi avec des demandes qui nous semblent impossibles au premier regard. Et cette réponse de Dieu de « n'ayez pas peur » valait déjà pour Esaïe avec les moments troubles qu'il vivait pour son présent, mais il annonce aussi une paix stable pour le futur. Et je reprends encore ce qu'Esaïe avait annoncé. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Il parle de la région de Zébulon et Naphtali, c'est justement la partie de la Galilée, après dans le temps de Jésus. Il parle que cette région-là va avoir une grande lumière dans le texte. Et puis, il dit que toute cette région, c'est plus long de la mer. Et puis, la population étrangère verront cette gloire, cette grande lumière. Et c'est intéressant qu'il annonce déjà une bénédiction pour tous les peuples, pas seulement pour Israël. Mais juste, il fallait attendre un tout petit peu. Une bénédiction par un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant peut apporter à toutes les menaces de guerre qui couraient Israël à l'époque d'Ésaïe? Et comment un enfant peut avoir la souveraineté? Un vaillant guerrier peut avoir la souveraineté. Une alliance militaire peut assurer la souveraineté. Mais un enfant, c'est du non-sens. C'est de l'absurdité qu'il était en train de prophétiser, Esaïe. Et ça s'est passé à peu près 700 ans plus tard. Israël avait déjà passé de main en main, d'abord les Assyriens, ensuite les Babyloniens, après les Perses, les Grecs, et finalement les Romains. Et il se passe ça. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Vous savez, il y a ces coachings pour chefs d'entreprise qui disent que quand tu veux avoir une discussion difficile, il faut d'abord commencer par quelque chose de positif. Je dois dire que ça ne marche pas trop avec ma femme. C'est je commence par, je suis tellement content d'être avec toi, elle m'a dit, ouais, tu veux quoi? Non, yes, c'était juste un compliment. Et ouais, d'accord. Peut-être c'est quelque chose comme ça qui s'est passé dans la tête de Marie. D'abord, un ange apparaît. Si un ange apparaît, ce n'est pas quelque chose de normal. Il doit avoir de grands enjeux pour qu'un ange vienne dire quelque chose. Dieu ne va pas envoyer un ange pour rien. Après, il commence par « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. » Oh là là, c'est une surprise inattendue. « Il est avec toi. » Si l'ange me rappelle que Dieu est avec moi, ça veut dire que j'en aurai besoin. Ça ne commence pas très, très bien, cette discussion. Mais au moins, il va directement au sujet. Il ne dit pas, dans une semaine, je viendrai te dire ce qui se passera, parce que ça, c'est pire. On est dans l'angoisse de l'anticipation. C'est comme si le patron nous dit, viens dans mon bureau demain matin. On va penser toute la journée, qu'est-ce qu'il veut me dire, le patron. Non, lui, il va direct. Et l'ange lui dit quoi par la suite? L'ange lui dit alors, elle était angoissée sur qu'est-ce que ça voulait dire cette salutation. Et puis l'ange lui dit, n'aie pas peur. L'ange veut vraiment la rassurer parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, il y aura des défis avec, mais c'est juste une nouvelle extraordinaire. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. C'est déjà juste extraordinaire. La version parole de vie met ce verset comme ça. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu as vraiment voulu lui faire un cadeau très spécial. Ce n'est pas une mauvaise surprise. Et pour comprendre la taille de la bonne surprise, j'aimerais revenir à ce que Ésaïe avait dit sur cet enfant. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. Ce n'est pas un enfant ordinaire, c'est un enfant souverain. Ésaïe n'était pas en plein délire quand il annonçait qu'un enfant nouveau-né serait souverain. Dieu est souverain et Jésus est souverain aussi. La souveraineté de Dieu, c'est ce qui peut apporter le plus de réconfort quand il y a des souffrances indescriptibles. Mais ça peut aussi blesser. Vous vous rappelez que dimanche dernier, on a lu qu'Ésaïe a dit que Dieu serait soit un objet d'adoration, soit une pierre qui fait obstacle. Et c'est ce qui se passe avec la souveraineté de Dieu et la souffrance. Soit la personne elle est bloquée avec la question, si Dieu est souverain, comment il a permis que ça m'arrive telle ou telle chose? Et là, ça devient un obstacle, la souveraineté de Dieu. Ou la personne, elle peut être libérée avec la question, si Dieu est souverain, qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie et dans la vie des autres avec la souffrance que j'ai vécue? Et ça change tout. Le même Dieu souverain est deux manières différentes de la vivre. Clarissa, elle a déjà partagé que c'est cette deuxième option qui l'a aidé à être libérée de choses difficiles du passé. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie et dans la vie des autres avec la souffrance que j'ai vécue? Et ça libère. Marie va devoir faire le même choix par la suite. Elle pourra se dire, si mon fils est souverain, pourquoi il est mort sur la croix? Puis alors elle peut être bloquée là-dessus. Mais elle peut aussi se demander, si mon fils est souverain, qu'est-ce que ça veut dire, sa mort sur la croix? Et ça change tout. Poser la question comme ça, ça change tout. Et Ésaïe continue, ce n'était pas que la souveraineté qui reposera sur son épaule. Il dit, on l'appellera merveilleux conseiller. Chaque fois que la Bible dit que quelqu'un s'appelle, ça veut dire ses caractéristiques profondes. C'est la personnalité de la personne. Le nom a une valeur très importante dans la Bible. Et puis là, il dit, on l'appellera merveilleux conseiller. Vous savez quand parfois vous parlez avec quelqu'un sur une situation difficile, est-ce que la personne partage, éclaire la situation d'une manière complètement nouvelle? À 12 ans seulement, Jésus allait discuter avec les spécialistes de la loi et les étonner avec sa sagesse. Un merveilleux conseiller. Et c'est vrai pour la vie avec Dieu. On lui parle, on reste attentif au travers de la Bible, au travers des pensées qui nous viennent, au travers des discussions avec les autres, au travers le déroulement des situations. Et la conviction de ce qui est juste à faire nous vient à l'esprit. Dieu y conseille à propos de ça. On regarde en arrière et on se dit, waouh, mais Dieu a vraiment guidé dans cette situation. Je peux me rappeler de plusieurs fois où j'ai failli prendre des décisions qui allaient être négatives pour moi et pour ma famille, mais c'est ton conseil qui m'a sauvé de ça. L'autre caractéristique qu'Ésaïe cite, c'est Dieu puissant. Ésaïe est en train de dire qu'au travers cet enfant, les personnes vont se dire que Dieu est puissant. Et pensez maintenant à ce qu'il a fait. L'aveugle voit. Comment ça va être la sensation de tout d'un coup avoir un nouveau sens qui est capté par son cerveau? La fiction imagine ça avec Peter Parker dans Spider-Man. Tout d'un coup, il a un sixième sens qui lui fait sentir des dangers. Mais dans la vie réelle, quelle devrait être la sensation de quelqu'un qui n'a jamais eu un des sens et tout d'un coup, elle peut voir des couleurs, des formes, la forme des visages, des personnes qu'elle aime, des mouvements. et elle se voit pour la première fois. Ça doit être impressionnant, cette sensation. C'est quelqu'un qui était né aveugle. Le sourd entend, le mort sort du tombeau, le boiteux commence à danser, le muet chante, l'orage se tait. Ce petit enfant dans son ventre est Dieu puissant. Et Esaïe continue, Père éternel, il s'appellera aussi Père éternel. Ce n'est qu'un enfant, et pourtant, il sera déjà honoré avec grand respect par beaucoup de personnes. Comme un père qui a béni sa famille pendant des longues années, et puis les enfants viennent lui dire merci, l'honorer, le respecter par qui il est, ben les personnes vont faire ça avec un enfant, pour l'honorer comme un père qui protège, un père qui pourvoit, un père qui ressent la douleur de l'autre. Et prince de la paix, ce petit enfant. Chaque fois que j'entends le prince de la paix, je me rappelle un témoignage que j'ai entendu il y a très peu de temps. Quand on a fait l'école pour devenir officier de l'armée du salut, on a étudié avec monsieur qui s'appelle Marcio, qui est sur Bâle maintenant, et sa femme. Et il était garde-corps ou sécuritas, je ne sais pas comment on dit, pour les boîtes de nuit. Voilà. Il assumait ce rôle-là. Et puis, il était au milieu de beaucoup de mauvaises choses, au niveau aussi alcool, drogue, sexualité, tout ce qui peut aller avec. Et il a raconté que sa femme avait déjà rencontré Jésus dans une église et elle assistait pour qu'il aille à chaque fois avec elle dans un culte. Et lui, il ne voulait pas. Tu peux aller avec les enfants si tu veux, mais moi je ne vais pas. Et puis, elle avait de nouveau ce jour-là demandé, mais viens à l'église avec nous, il y aura un culte spécial, ça sera vraiment très, très, très bon et j'aimerais bien que tu partes avec nous. Et ce jour-là, avec ses quelques amis, il était sur le point de kidnapper quelqu'un qui leur devait de l'argent. Du coup, ils allaient le choper pour qu'il rembourse cet argent d'une manière ou d'une autre. Et ils attendaient, le gars, il n'arrivait pas. Et puis tout d'un coup, il regarde au loin, il voit la croix de l'église qui était assez loin. Là, je pense que c'était aussi sur Bâle à ce moment. Et il dit, j'en ai marre, on a trop attendu, on fera ça un autre jour. Les autres se sont dit, mais on a déjà attendu pour des heures, tu vas partir maintenant. Il dit, ouais, j'en ai marre. Puis il est parti, c'est déjà presque minuit. Il dit, bon, je vais quand même, l'église, c'est déjà fini, probablement le culte, mais je vais quand même. Quand il arrive là-bas, il dit que le pasteur le reçoit à bras ouverts et dit, Marcio, tellement content que tu sois là, on va commencer la nuit de prière aujourd'hui. Et puis, il n'avait pas compris que c'était une nuit de prière qui commençait en fait à minuit. Et qui allait durer toute la matinée. Puis d'accord, il va, il s'asseye. Et à un moment donné, je ne sais plus quel horaire il l'avait dit, c'était 4 ou 5 heures du matin. Il regarde à droite, il y a ses enfants qui sont en train de dormir sur les bancs. Il regarde à gauche, il y a sa femme qui écoute ce que le pasteur y dit. Et puis il a dit qu'il a écouté cette phrase. Il ne peut pas se rappeler si c'est le pasteur qui l'a prononcé ou si c'était quelque chose dans sa tête. D'abord, il s'est rappelé, il a écouté la cloche qui sonnait. Il s'est rappelé que c'était le moment où les gens sortaient des boîtes de nuit, qui avaient tout plein de bagarres, des gens ivres, des choses qu'ils devaient résoudre à ce niveau-là. Et puis il a dit qu'il a écouté « Je suis le prince de la paix. Je suis le prince de la paix. » En regardant cet enfant qui dormait et en comparant avec ce qu'il aurait vécu dans son travail, en sortant de boîtes de nuit. Et il a dit que c'était le début de sa conversion. Là. Il y a beaucoup plus d'autres étapes, mais c'était... Ce que tu vis, ce n'est pas de la paix. Mais moi, je suis le prince de la paix. Je peux te donner une paix véritable et pour de bon. Et c'était le début de son cheminement. Jésus est le prince de la paix. Et Esaïe, il termine sa prophétie en disant, « Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit, sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes, dans son ardent amour. Waouh, Ésaïe espérait certainement une paix au niveau politique, quelqu'un qui sera physiquement le roi d'Israël. Mais les disciples de Jésus ont vu par la suite dans cette prophétie un règne invisible qui apporte la vraie peur, la vraie paix dans les cœurs. C'était le projet du cœur de Dieu dans son amour ardent. Un règne invisible, pas un règne politique. Et c'est exactement ce que l'ange a promis à Marie lors de cette première rencontre. L'ange lui dit, bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. L'ange dit pratiquement la même chose qu'Ésaïe, sauf que Jésus n'est jamais devenu un roi au niveau politique. Par contre, dans les cœurs, il est devenu un roi. Il est devenu un roi dans les cœurs de beaucoup de personnes, de toutes les nations et de toutes les époques. Et je pense que ce règne-là, il a raison, l'ange et Ésaïe, ce règne-là n'aura pas de fin. Il continuera à prendre la première place dans la vie de beaucoup de personnes, tant dans le passé comme dans le présent et le futur. Dans le cours de disciples qu'on fait ici, le cours Tousseur, par exemple, il y a en tout cas trois personnes qui ne font pas officiellement partie d'une église et qui ont décidé de faire Jésus le roi aujourd'hui. Qui ont découvert Jésus, qui ont décidé « Je veux que Jésus soit le roi de ma vie » et ils font le cours de disciples avec nous. On est à la fin de ce parcours, on n'a plus qu'une leçon en janvier, c'est une année de parcours une fois par mois. Et chacun va décider comment ils vont vouloir continuer ce parcours de disciples, avec quelle communauté ils aimeraient continuer à découvrir Dieu et cheminer en tant que disciples. Chacun va prendre cette décision pour lui-même. « N'aie pas peur, Marie !» C'est ce que l'ange a dit. Tu as été choisi pour recevoir un cadeau très spécial. Et c'est par ce roi, ce merveilleux conseiller, ce Dieu puissant, ce Père éternel, ce Prince de la paix qu'on peut aujourd'hui écouter les paroles adressées à Ésaïe et à Marie. N'aie pas peur. Ça vaut aussi pour nous. Son royaume est toujours d'actualité. Il peut devenir le roi dans notre cœur. Et quand il l'est pour de vrai, cette phrase va aussi valoir pour nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Seigneur Jésus, merci pour ce roi qui est venu il y a plus de 2000 ans et qui règne pour toujours dans les cœurs. Ce royaume invisible qui peut apporter de la vraie paix. Seigneur, ce merveilleux conseiller, ce Dieu puissant, ce Père éternel. Seigneur, on veut l'expérimenter à nouveau et à nouveau pendant cette période de Noël et aussi dans toute l'année qui vient. Expérimenter comment ce Jésus, quand il est roi dans notre cœur, il peut apporter cette paix, même si tout autour de nous est en train de s'effondrer. Amen.
Savais-tu que ton nouveau-né nous ferait naître à nouveau? Savais-tu que ton nouveau-né est aussi là pour toi que cet enfant dans tes bras un jour te sauvera? Marie, savais-tu que ton nouveau-né enseignerait les sages? Marie, savais-tu que ton nouveau-né calmerait les orages? Savais-tu que ton nouveau-né serait béni des cieux quand tu embrassais son visage, tu embrassais ton Dieu?
L'aveugle voit, le sourd entend, le mort sort du tombeau. Le boiteux danse, le muet chante les merveilles de Dieu. L'aveugle voit, le sourd entend, le mort sort du tombeau. Le boiteux danse, le muet chante les merveilles de Dieu. Marie, savais-tu que ton nouveau-né est roi de la création? Marie, savais-tu que ton nouveau-né
Fontaine.